un moment d'hommage et de recueillement. C'est le moment que la famille du petit Émile attendait, le moment où elle pourrait lui dire un dernier adieu. Hier, les obsèques du petit garçon se sont déroulées à la basilique Sainte-Marie-Madeleine dans le Var. Une messe, une inhumation et un cri du cœur de la part de ses grands-parents. Le temps du silence, ont-ils dit à BFM TV, doit laisser place à celui de la vérité. Mais quelle vérité, Pierre-Emmanuel Pousset?
C'est l'image qui résume toute une tragédie. Le petit cercueil blanc contenant la dépouille d'Émile Soleil faisant son entrée dans la basilique Sainte-Marie-Madeleine. À l'intérieur de l'édifice, 400 proches et des membres de la famille, notamment Marie et Colomban Soleil, les parents du petit garçon, ainsi que son grand-père Philippe. Une centaine d'autres personnes se sont également joints à l'office, tous réunis pour faire leurs adieux au petit Émile.
C'est bien triste, voilà, mais bon, les parents ont voulu que ce soit gai, habillé en clair.
À l'issue de l'office, le cercueil quitte la basilique en direction de la Bouilladis. C'est dans cette commune où vivent les parents d'Émile que l'enterrement du garçon se déroule, cette fois-ci dans la plus stricte intimité. Une étape importante pour le deuil des proches d'Émile qui attendent toujours des réponses sur ce qui est arrivé au garçonnet.
Le temps du silence doit laisser place à celui de la vérité.
Pour éclairer les zones d'ombre, les autorités étudient trois pistes notamment. Une chute accidentelle, un homicide involontaire, par exemple à la suite d'un accident de voiture, ou encore un possible crime d'opportunité. D'autres questions taraudent les enquêteurs. Comment les ossements du garçon de 2 ans ont-ils pu se retrouver à 2 kilomètres du domicile où il résidait? Mais aussi, à qui appartiennent les traces d'ADN masculin retrouvées sur les restes et les vêtements d'Émile? 19 mois après la disparition du garçon, l'enquête se poursuit.
L'enquête se poursuit. Quelle vérité sur la mort du petit Émile? On va y revenir avec Laurent Blanchard qui nous a rejoint. Bonjour, vous êtes journaliste au service reportage de La Provence. Vous avez suivi les obsèques, vous suivez cette affaire depuis le début, vous venez régulièrement nous voir. Merci beaucoup d'être là. Et puis avec nous également, Maître Marc Gégère. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes l'avocat de la famille de Yanis Moret. Vous êtes auteur des Survivants aux éditions Mareuil. Yanis Moret, c'est ce petit garçon qui, 34 ans avant Émile, est mort quasiment dans des conditions similaires, à quelques kilomètres du Auvergnat. On va y revenir parce que c'est une des pistes aussi qui existe dans l'affaire du petit Émile. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, Laurent, vous étiez hier aux obsèques du petit Émile. Qu'est-ce que vous en retenez? Quelle atmosphère? Qu'est-ce qui vous a marqué?
Une grande émotion, forcément. L'image qui me restera, c'est le petit cercueil blanc, ouais, porté par ses parents, Marie Colomban Soleil, ainsi que sa marraine et son parrain. L'entrée dans la nef. Donc, voilà, il y a vraiment un moment d'une intense émotion. Et évidemment aussi la sortie de ce petit cercueil blanc. Donc, voilà, il y avait une chape de plomb dans cette église, dans cette basilique. Moment de très grande émotion.
Moment d'émotion évidemment très fort, sur lequel a plané le doute qu'il y a sur cette affaire. Cette enquête qui n'en finit pas, dire. Alors, on va la reprendre dans le détail, mais les mots des grands-parents d'Émile hier à BFM D6 sont importants. Le temps du silence doit laisser place au temps de la vérité. C'est des grands-parents qui ont un temps, en tout cas, été questionnés, sur lequel beaucoup de choses ont été dites. Que ce soit eux qui prennent la parole hier, alors que l'enquête n'est pas close, juste après l'inhumation, ça a un sens particulier.
J'ai reçu personnellement aussi le document. C'est un communiqué qui nous a été transmis par son avocate, Isabelle Colombani. J'ai été surpris aussi du timing, mais pourquoi pas. Donc, ils ont voulu sûrement boucler cette séquence des obsèques pour parler enfin, pour briser ce silence. Comme ils le disent, ça fait 19 mois donc qu'ils sont dans l'attente d'une réponse, 19 mois d'incertitude, et forcément beaucoup de tension aussi autour de cette affaire. Forcément, voilà, donc ils aimeraient maintenant donc avoir des réponses formelles de la part des enquêteurs.
Mais c'est pas les parents d'Émile qui prennent la parole, ce sont les grands-parents.
Peut-être que c'est en raison de l'origine de l'affaire. Donc on rappelle que donc les grands-parents donc avaient la garde du oui, petit-fils. Peut-être qu'ils se sentent un petit peu responsables aussi donc à ce niveau-là. Ils ont voulu donc prendre la parole pour justement donc pouvoir étayer cette version.
Et peut-être aussi, comme le sous-entendait Philippe tout à l'heure, le grand-père, on l'a quand même clairement à un moment soupçonné. Oui. On s'est dit, bon, voilà, il a travaillé dans une école, il était éducateur, il avait la main un peu leste parfois sur les élèves. Donc, lui est en droit aujourd'hui de dire, il a été mis hors de cause, visiblement, en tout cas, il a été mis hors de cause pour l'instant, est en droit de dire à la justice, vous vous êtes tourné vers moi, maintenant, C'est moi qui me tourne vers vous en vous demandant de bouger un peu.
Oui, oui, parce qu'il y a plusieurs pistes qui sont qui restent sur la table. Donc toutes ces pistes restent ouvertes. Hein, donc on a parlé de la version de l'enfant qui serait égaré, qui serait mort de mort naturelle, donc dans les sous-bois environnants du hameau. Il y a la version aussi d'un homicide involontaire, un accident avec dépassement possible du corps. Et peut-être aussi dans la version de l'accident domestique. Donc toutes ces versions restent à l'étude et c'est vrai que ça laisse planer vraiment un doute même au-dessus de la famille. On peut imaginer aussi qu'à l'intérieur de la famille il y a aussi certaines tensions qui se mettent en place. Donc avec justement donc cet épisode initial où les grands-parents avaient la garde de cet enfant, ils se sentent forcément responsables de certains côtés. Donc.
On va revenir sur les traces ADN, toujours en analyse. Avant cela, il y a une des pistes qu'il faut évoquer aussi, c'est celle d'un prédateur, quelqu'un qui pourrait rôder dans cette région, puisque je le disais, 34 ans avant Émile, le petit Yanis Moret, va disparaître. Vous allez nous raconter cette histoire. C'est à Ganagobi. Qu'est-ce qui se passe pour Yanis ?
En fait, ce matin-là, il est en train de jouer à quelques dizaines de mètres de son domicile avec ses frères et sœurs. Et puis l'idée, c'est de faire une cabane. Et à un moment donné, on est en défaut d'outils, donc les frères aînés vont chercher des outils à la maison. Ça prend à peine quelques minutes, et quand ils reviennent, ils ne retrouvent plus Yanis, qu'on ne retrouvera plus du tout. À partir de là, évidemment, il va y avoir une enquête qui va démarrer très rapidement, avec des battues qui vont être organisées. On va ratisser l'intégralité de la superficie et du coin dans lequel vraisemblablement il a disparu. On ne trouvera rien. Et ce qui est très curieux dans cette affaire, c'est que plus d'un an après, donc là on est en mai 89, en septembre 90, il y a un chasseur qui va se présenter au service de gendarmerie en disant « j'ai trouvé une paire de chaussures ». Et comme il était évidemment informé de l'histoire un an auparavant de la disparition de Yanis, il va les amener à la gendarmerie. Les gendarmes vont aller avec lui sur les lieux de découverte de ces chaussures et on va trouver des choses incroyables. On va trouver pliées, rangées, les affaires qui appartenaient à Yanis, c'est-à-dire son blouson, on trouve même son slip, une chaîne en or, et on va même retrouver une dent. Et on vérifiera que cette dent correspond à un enfant de 3 ans qui est l'âge de Yanis au moment de sa disparition.
Ceux qui ne connaissaient pas cette affaire en vous entendant sont frappés. Émile a 2 ans et demi, Yanis a 3 ans, il disparaît. On retrouve des éléments un an après dans un bois. D'abord, les parents de Yanis, comment vivent-ils cette affaire, Émile ? Pour eux, ça doit être terrible.
Ben c'est vous imaginez ce que c'est que l'incertitude et le besoin évidemment de se raccrocher à un espoir qui est de plus en plus ténu, qui est celui de la survie de cet enfant qui aujourd'hui aurait plus de 35 ans. C'est très compliqué. Alors ça, c'est un peu en dents de scie. Il y a des moments un peu d'enthousiasme au moment où, par exemple, en 2022, le procureur de Digne-les-Bains décide de réouvrir l'enquête parce qu'il se rend compte que dans cette enquête préliminaire, il n'y a eu aucune étude d'ADN, mais à l'époque, il faut dire que le FNAEG n'existait même pas. Et donc, on va faire repartir l'ensemble de ces scellés avec l'espoir pour la famille de trouver quelque chose. On va trouver des choses, mais c'est des choses qui ne seront pas concluantes. Et après, il faut bien comprendre que malheureusement, quand des affaires sont mal engagées, parfois, ça se suit. Les éléments d'ADN vont être pour partie perdus, pour d'autres pollués. De sorte que même si Diane, qui est la division des affaires non élucidées de la gendarmerie, va donner un certain nombre de pistes, il y en a qui ne seront plus exploitables. Par exemple, de dresser un portrait robot ADN en fonction des éléments qu'il y avait, on ne peut plus le faire. On ne peut plus non plus vieillir le portrait de cet enfant aussi facilement qu'on aurait pu le faire. De sorte que, vous voyez, pour une mère, c'est il va peut-être y avoir enfin quelque chose, et puis non, il n'y a plus rien, et c'est ça depuis 35 ans.
Elle vous parle d'Émile ?
Oui, bien sûr, chaque fois qu'il y a une affaire de disparition qui est à peu près similaire, d'ailleurs elle n'est pas la seule à le faire, les services de police et de gendarmerie ont aussi fait ces rapprochements pour essayer de trouver des dénominateurs communs, des éléments qui pourraient amener les enquêteurs vers une piste. Pour l'instant, malheureusement, on n'en a pas.
Pour vous, même aussi longtemps, 34 ans, hein, 34 ans après, il peut y avoir un rapport entre l'affaire Yanis et Émile.
Je peux pas me prononcer, mais en tout cas, les similitudes dans les deux affaires questionnent. Voilà, c'est la seule chose qu'on puisse dire aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un tueur en série qui aurait continué à agir pendant des décennies ? J'en sais rien, ça c'est déjà vu. Y compris avec des gens qui vont commettre un acte criminel et puis vont passer de nombreuses années sans rien faire. Et puis d'un coup, ça réitère les faits. Donc,
toutes les hypothèses sont possibles.
C'est une hypothèse qui a été envisagée, et c'est une hypothèse aussi que les habitants du Vernet ont en tête. Hein. Quand Émile est parti, ils ont tout de suite pensé à Yanis, parce que l'émotion avait été immense pour Yanis aussi.
Alors c'est une hypothèse qui a été évoquée, mais ça paraît peu probable. Enfin, par rapport à la configuration du hameau, c'est un hameau qui est très resserré, donc on imagine mal un prédateur d'opportunité passer par là sans être vu. Donc ça a été retenu. Mais pour revenir au contexte par rapport à l'ambiance dans ce hameau, forcément les habitants y pensent. J'ai pu parler avec certains, ils ne sont pas sereins. Une habitante me disait que le soir elle sortait son chien et elle avait toujours cette image derrière elle d'un prédateur potentiel, d'un criminel potentiel qui rôdait dans la commune. Donc voilà, donc il y a ce contexte qui est assez évident.
Après, Laurent, ouais. dans l'affaire Émile, ça peut être, il a pu se perdre. Dans l'affaire Yanis, c'est clairement un meurtre.
Oui.
On trouve des vêtements pliés un an après. Oui. Les vêtements ne sont pas arrivés là par hasard.
Non, et c'est vraiment ça qui est très perturbant dans cette affaire, qui est une disparition sèche, si je puis dire. On en a déjà vécu, il y en a d'autres. Mais qu'un an, un peu plus d'un an plus tard, il y ait ces habits qui soient ramenés.
Enfin, un meurtre, une affaire criminelle, quoi.
Ils n'ont pas pu être oubliés par les enquêteurs de prime abord en 89. C'est absolument impossible vu la manière dont c'était rangé. Donc, qu'il y ait un an plus tard quelqu'un, vraisemblablement, qui a quelque chose à faire avec la disparition, voire le décès de Yanis, revienne porter ces affaires comme ça, c'est quoi? C'est du remords? C'est
la mise en scène.
Oui, on ne sait pas ce que ça peut représenter.
Mais c'est que par rapport à la mise en scène, on peut aussi s'imaginer que le crâne qui a été retrouvé sur le sentier le 30 mars 2024, c'est aussi une mise en scène quelque part.
Et on rappelle
qu'il y a certaines similitudes à ce niveau-là.
Des analyses ADN complémentaires qui ont été demandées au professeur d'Outremepuche à Bordeaux sur les ossements et les vêtements d'Émile. C'est en cours, ça a priori été remis et on attend d'en savoir plus. Et l'enquête se poursuit. Merci beaucoup à vous deux d'être sur le plateau d'Affaires Suivantes ce dimanche.